sommes-nous porteurs d'un projet? L'islam est-il porteur d'un projet d'unité mondiale, de paix mondiale, de mise en relation entre l'ensemble des êtres humains au nom du fait qu'ils participent de la même famille humaine? Et que la distinction qu'il y a entre les êtres humains du point de vue de leur dignité n'existe point si ce n'est par la piété qui est le fondement de leur dignité. Elle n'est ni religieuse, ni de sexe, ni sur le plan économique, ni sur le plan social. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous auprès de Dieu est celui qui respecte les règles morales. Celui qui fait le bien, le plus pieux, le plus conscient du divin. Celui qui est le plus utile aux êtres humains. C'est ça le critère premier. Quel est donc notre projet? Or, nous avons un problème, nous l'avons indiqué tout à l'heure dans l'exemple du débat entre les anges, le diable, Dieu, sur l'être humain. La déviance qui est la nôtre aujourd'hui du point de vue politique, aussi bien dans le monde musulman que chez les chrétiens, que chez les juifs, ou que chez ce qu'on appelle les laïcs, ou la civilisation moderne. C'est l'opposition et la guerre établie entre ces deux dimensions de l'être humain, qu'est la dimension spirituelle et la dimension temporelle. Tout modèle de civilisation, toute éducation, tout projet fondé sur l'opposition entre ces deux dimensions de l'être humain est un projet de guerre. Il ne peut apporter le bonheur. Il ne s'agit pas de choisir l'au-delà au détriment de l'ici-bas, et il ne s'agit pas de choisir l'ici-bas au détriment de l'au-delà. Et d'ailleurs, ceux qui, soi-disant, choisissent l'au-delà pour refuser l'ici-bas sont les plus coquins avec l'ici-bas. Croyez-moi.
Absolument.
Tous des hypocrites. Donc, il faut, à un moment donné, tenir les deux. Et c'est pour ça qu'il est plus difficile d'être un homme qu'un ange. C'est facile d'être un ange. Ils n'ont pas de problème, eux. Ils n'ont pas de besoin, ils n'ont pas faim, ils n'ont rien du tout. Si les anges avaient, s'étaient occupés de la terre, ça aurait été la catastrophe. Il n'y aurait pas eu de construction, il n'y aurait pas eu d'art, il n'y aurait pas eu de dessin, il n'y aurait, rien eu parce qu'ils n'ont pas les besoins. Et ils sont dans le monde de l'unité idéale. Ah ben, comment ils vont gérer le monde de la contrariété, de la tension et de la contradiction et apporter de l'harmonie et du cosmique? Il faut le faire, ça. Et le diable, c'est un lâche, incapable qu'il est, il est parti se réfugier dans son origine biologique, en disant que l'autre est fait de terre, donc il n'est qu'à moins que rien. T'es un lâche, t'es incapable, et c'est pour ça que t'es envieux. Quel est notre projet aujourd'hui, et comment sortir de la réaction vers l'action? Ce qui se passe dans les quartiers populaires, et je l'ai indiqué, je pense que ce qui nous manque même, les quartiers populaires, comme la communauté musulmane, nous sommes dans l'éternelle réaction en raison du fait que nous n'avons pas de vision claire qui nous soit propre. Nous n'avons pas de stratégie en conséquence civilisationnelle. Et nous n'avons pas d'action politique et institutionnelle qui engage les individus parmi nous et puisse mettre en exergue leurs capacités et leurs compétences dans le sens d'un projet. L'origine du terrorisme, comme l'origine, le terrorisme, pas des dominants. Parce que le terrorisme des dominés n'est qu'une réaction par rapport au terrorisme des dominants. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire que si les États-Unis et les Occidentaux ne passaient pas leur temps à mettre le désordre sur Terre, il n'y aurait pas les réactions que nous avons aujourd'hui. Et ça, il faut que les Occidentaux l'entendent. On ne peut pas parler, poser la question de l'islam et de la paix quand on est l'Occident. Il faut qu'à un moment donné, on dise aux sœurs et aux frères de nos amis occidentaux et les dirigeants, calmez-vous les amis. Vous êtes mal placés pour faire la morale. Vous avez massacré tant le peuple.
Absolument.
Donc calmez-vous, asseyez-vous. Et nous, on est là, on se dit, non, l'islam est la paix. Hein. On est dans la réaction de la justification. On n'a rien à justifier et on n'a pas à avoir peur. Le terrorisme islamique n'est qu'un épiphénomène de la civilisation musulmane. Et on essaie d'en faire une histoire mondiale de 1400 ans. Daesh, c'est quoi par rapport à 1400 ans d'histoire? C'est rien. Revenons donc au quartier populaire. Nous sommes en éternelle réaction. Oui, ils ont raison de se lever et de dire pourquoi ils ont tué Naël. Mais sans spiritualité, on détruit. On ne construit pas sans spiritualité. Où sont nos imams et leur éducation spirituelle qui permettent de nous former, de nous enracinés à l'intérieur de nous, en relation avec Dieu, pour que nous ne soyons pas en réaction, mais que nous soyons en action. Pourquoi est-ce que quand il y a eu les caricatures sur le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, parce que les caricatures sur le prophète Mohammed, c'est, il y a une volonté de détruire les assises spirituelles d'une civilisation qu'on veut dominer, et pour mieux exploiter leurs ressources. Ça, on a compris le plan et la stratégie. Maintenant, si on a compris le plan et la stratégie, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ils attendent qu'on réagisse? Pourquoi est-ce qu'au lieu d'aller vociférer dehors, j'ai dit vociférer une fois, les imams me sont obétus, ils ont dit que j'étais traité de chien. Je le dis, vous ne parlez jamais de l'action sociale que lorsque l'État vous demande d'aboyer. Parlez à partir de votre vision, votre proposition sociale, votre proposition politique pour la paix dans ce pays et pour la paix dans le monde. Quel est notre projet? Et cette paix-là, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas d'enracinement. Mais cette éducation spirituelle ne peut pas se faire aussi dans un océan de misère. Les deux sont liés. Nos acteurs dans les quartiers populaires et leurs mouvements, pourquoi est-ce que la marche pour l'égalité n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que la révolte des banlieues en 2005 n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que la révolte au mois de juin dernier ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que même des gens qui se battent pour un certain type de nourriture ou pour aller avoir le droit d'aller chasser, ils arrivent à avoir un certain pouvoir dans le pays, et nous on est 10 millions, 5 millions, on est incapable de s'organiser et à un moment donné de proposer quelque chose? Parce que nous ne sommes pas enracinés dans une spiritualité vivante. Nous sommes enracinés ou déracinés dans un formalisme religieux qui nous dessèche. Par rapport et en réponse à un matérialisme tout aussi desséchant. Et puis c'est ce tête-à-tête entre les deux. Allier le clergé spiritualiste sans spirituel et l'allier objectif du temporel matérialiste et dominateur. Et la réponse se trouve dans l'alliance des deux dimensions. Quand on lit l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam, je suis toujours étonné comment il a fait pour être et ses compagnons, d'être à la fois enraciné spirituellement et d'être des stratèges, parce que le but du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était de faire en sorte que son message devienne universel. Et toi, t'es en plein milieu de la Mecque, dans le trou perdu d'un désert, comment tu fais? Qu'est-ce qu'il a fait? Et on voit les stratégies qu'il a mis en place, les moments de guerre et de paix qu'il a mis en place, les contrats. Mais quand on voit l'arrière-fond, on voit, mais très enraciné dans le monde, très au courant de tout ce qui se passe autour de lui, de conflits entre les deux grands empires, il prend tout cela en compte, il comprend ce qui se passe dans sa réalité, il répond aux besoins des plus pauvres et des plus faibles au nom de son message, et en même temps, on va dire c'est une action politique, et en même temps, c'est l'homme qui ne dormait pas la nuit. C'est l'homme qui, dans son action même temporelle, vivait Dieu. C'est l'homme proche de Dieu qui dit ce qui m'a été le plus donné à aimer dans ce monde, c'est les parfums et les femmes. Et la prière. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ces trois choses? Parce que pour beaucoup, c'est difficile à tenir ces trois choses. C'est être enraciné dans le combat pour la justice, multiforme, et pas dans la réaction. Et en même temps, être nourri spirituellement. Donc, c'est cette éducation que l'on doit donner, en fait. Quel type de spiritualité agissante, transformatrice pouvons-nous faire? Qui transforme notre intériorité pour transformer notre extériorité? Je ne sais pas pour l'instant. Une fois, j'avais dit à quelqu'un, je ne sais pas prier. Et je ne sais pas prier. Pourtant, je prie depuis que j'ai 5 ans. Mais je ne sais pas prier. Parce que je ne sais pas quelle prière faire qui me permet, à un moment donné, d'être un meilleur homme. Les musulmans, aujourd'hui, font partie des communautés les plus pratiquantes. Et quel est le résultat de cette pratique sur le plan civilisationnel, de cette pratique sur le plan civilisationnel? Donc il y a un problème. Et je le dis aussi à nos amis leaders des quartiers populaires. Si vous partez du principe que pour être accepté par cette société, il faut être un gauchiste sans foi ni loi, qui répète les formules communistes ou de droite, sans s'enraciner dans sa propre culture et spiritualité, je vais être vulgaire, vous êtes mort dans le film. Il y a des acteurs, dès le début du film, ils meurent. Tu vois, il est beau gosse et tout, boum, il se fait tuer. Oh, quelquefois même, c'est dans la bande annonce. Donc, notre projet, à un moment donné, doit être un projet d'émancipation adressé à l'ensemble de la société. Et pas seulement pour nos quartiers populaires. Notre message doit être un message de souverainisation de l'être humain en tant qu'être calife de Dieu sur terre, quelle que soit sa religion. Voilà. Un être calife de Dieu, comme disait Ibn Khaldoun, il est chef par nature. Ra'isun bi tab'ihi. Bi muqtada al-istikhlaf alladhi khuliqa lahu. En raison de la lieutenance du vicariat pour laquelle il a été créé. C'est ça le but de l'être humain. Il est là pour gérer la terre au nom de l'au-delà et des principes divins. Aujourd'hui, là, ce qui se passe en France, nous avons une gestion politique qui est complètement coupée de valeurs humaines. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de laïcité, mais ils font le contraire de ce que dit la laïcité. C'est pour ça qu'ils vous parlent d'égalité, ils pensent qu'il y a une chose, c'est d'aller recoloniser le pays là-bas. Il y a quelqu'un qui l'a dit sur Seigneur, je l'ai vu. Il faudrait qu'on aille les recoloniser. Puis ils en sont là. Aujourd'hui, ce qui est la mise en danger, si nous, musulmans, on ne se réveille pas, c'est que même les valeurs de la modernité qui sont en accord avec les principes de l'islam vont être perdues à cause du projet colonial qui vise à réduire l'être humain à sa couleur de peau, à sa religion particulière, et à éduquer et à donner une éducation pour le réduire dans cette situation-là. L'éducation nationale aujourd'hui est en crise parce qu'elle n'a plus pour rôle d'élever les êtres humains. Elle a pour rôle de sélectionner, de dominer. Sinon, on ne serait pas là à exclure des femmes parce qu'elles portent un habit ou une robe ou je ne sais quoi. Donc, il faut sauver l'éducation, il faut sauver l'économique et leur donner un visage à un projet humain. Quelle est la proposition des musulmans là-dessus? On ne parle que de comment on doit s'habiller et comment on doit manger. On mange halal, hein. C'est très bon. Mashallah. Moi aussi, je dis bismillah, je mange, alhamdulillah. La sœur, elle porte un voile, elle est belle, elle est magnifique. Eh, machin, c'est pas. Mais c'est pas le cœur de l'islam. C'est pas le cœur de l'islam. Et nos imams, malheureusement, sont des imams répétiteurs. Et je vais pas me faire des amis, hein, faut dire les choses maintenant. Parce qu'on en a assez, et là, on est en crise. Un imam n'est pas là pour dire est-ce que tu as le droit de fumer. J'étais dans un débat avec des imams sur un groupe. Bon, ils vont voir la vidéo, ils vont pas être contents, bien sûr. Mais c'est pas grave, je suis prêt à débattre. Mais un imam, l'islam n'est pas là pour te dire si tu as le droit de fumer ou pas. Tu peux aller voir la fatwa de l'OMS. C'est bon. L'OMS suffit comme fatwa. Tu sais que ça va bousiller ta santé. Maintenant, fais ce que tu veux, frère. Mais si tu as besoin d'un imam pour savoir si tu as le droit de fumer et bousiller ta santé, et l'imam en plus, il ose te répondre parce qu'il a que ça à faire. Où sont les grands défis pour l'humanité? Quelles sont nos réponses sur la question de la famille? Quelles sont nos réponses pour aider nos quartiers populaires à faire émerger des êtres libres, leaders, grands, beaux, contributeurs? Quelle est la manière dont nous avons pour faire en sorte de lutter contre l'injustice pour tout le monde et rentrer au paradis au nom de cela? Quelqu'un qui donne à boire à un chien, bien qu'elle soit prostituée, rentre au paradis. Si c'était nous qui jugions. Pour un chien, mais elle serait partie en enfer. Une prostituée. Moi, je l'aurais mis en enfer.
Elle a perdu son rendez-vous, nous touchons.
Ah, en plus, elle a perdu son rendez-vous. Elle n'avait pas vu cette fois. Elle n'a pas la vue cette fois. Quel est notre projet? Quelle est notre vision? Quelle est notre stratégie? À partir des valeurs universelles de l'islam que nous avons, qu'il faut libérer de son actualisation passée, qui est certes respectable, mais qu'il faut dépasser maintenant. Et Dieu est plus savant. Les termes paix, les concepts de paix, les concepts de vérité, les concepts de justice, les concepts d'unité, le concept d'équilibre, le concept... Tous ces concepts-là recouvrent une même réalité qui ensuite se transpose de façon différente dans les différents compartiments de nos réalités. À ce niveau cosmique, l'idée en tous les cas de paix, de vérité, et ce sont les noms de Dieu, subhanahu wa ta'ala, Al-Haq, Al-Salam, Al-Mu'min. Et je me suis toujours dit pourquoi Dieu s'appelle Al-Mu'min. Dieu n'est pas croyant. Donc, Dieu est le sécurisant. Donc normalement, donc le mu'min n'est pas le croyant, le mu'min est celui qui est en paix et qui apporte la paix. Mais est-ce qu'il y a dans les noms de Dieu quelque chose qui est de l'ordre musulman? Non. Mais il y a le mot salam. Donc si mu'min ne veut pas dire croyant, mais sécurise, celui qui sécurise et qui apporte la sécurité, Et que Salam veut dire celui qui est la paix et qui apporte la paix, muslim, est le vecteur de la paix. Et être vecteur de la paix, c'est être en contact avec la paix, et c'est pour ça que le souvenir de Dieu vient nous apaiser. Pourquoi ? Parce que il y a en l'être humain cette dimension première à partir de laquelle il s'affirme. Le je, l'ego, le cogito ergo sum de Descartes, le je pense donc je suis, n'est pas possible. Si on revient sur Al-Ghazali, n'est pas possible sans cette lumière première à partir de laquelle l'être humain peut se juger, peut se positionner. Comment l'être humain arrive à savoir qu'il est un, qu'il est fini, s'il n'est pas en rapport avec l'infini? Mais quel est donc son rapport réel avec l'infini? Parce que le fini ne peut pas connaître l'infini à la base. Sauf si l'infini se montre à lui. C'est un premier élément. Comment nous mettre en relation, en paix, avec la source même cosmique de la paix, qui crée l'harmonie du monde, qui fait que le cosmique dépasse le chaos. Il y a l'entropie et il y a la négantropie dans la création du monde. L'univers persiste parce que les forces négantropiques prennent toujours le dessus sur les forces anthropiques qui existent toujours. Et c'est la notion même du champ cosmique. Quand il dit « Subhanallah, yahina tumsuna wa hina tusbihun » gloire à Dieu, lorsque vous êtes en matinée, dans tous les moments de la journée. Et il continue « Wala ulhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhirun » Et après avoir parlé de cet état de tasbih, de tous les moments, de ce moment de chant de transcendance, de gloire, de dépassement vers le divin, ils se mettent à nous parler de l'interaction entre la mort et la vie. La mort participe de la vie qui participe de la mort, et le principe de paix et d'unité dépasse ces oppositions. C'est juste après cela, ensuite, qu'il parlera de l'unité duale du couple. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Et parmi ces signes qu'il a créés pour vous des époux, des épouses, afin que vous puissiez trouver la tranquillité auprès d'elle, auprès de lui, auprès d'eux. Et il a établi entre vous de l'amour et de la tendresse. Ce propos-là vient immédiatement après la mise en relation de la mort et de la vie. Ici, la mise en relation de la femelle et du mâle, et le passage qui vient après par directement de diversité. Et parmi ces signes est qu'il a créé la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos couleurs et de vos idiomes, de vos langues. Il y a certes en cela un signe pour ceux qui savent. Mais regardez de quelle manière est-ce que le Coran transpose cela. L'unité première, la transcendance divine, qui recouvre l'ensemble du champ cosmique et qui sous-tend l'interaction entre la mort et la vie, qui crée, qui fait la vie et la création. Tout de suite, ensuite, donc il y a cette dualité entre des contraires, vie et mort. Ensuite, il y a cette dualité entre mâle et femelle, couple, qui interagissent et crée la vie. Et ensuite vient la diversité des couleurs, la diversité de la vie et de sa beauté. Cette vision-là, comment la transposer dans la réalité humaine qui est faite et qui est fondée sur l'idée que فَأَلْهَمَهَا فُدُورَهَا وَتَقْوَهَا Il lui a inspiré aussi bien son penchant vers le mal que son penchant vers le bien. Comment vivre cette réalité cosmique au niveau humain, au niveau de nos interactions et de nos sociétés, avec ces éléments de contradiction qu'il s'agit de dépasser sans nier. Et le débat qu'il y a eu entre les anges et le diable au sujet de l'être humain, c'est ça. Et au fond, aujourd'hui, la paix mondiale ou la paix entre les êtres humains et sur Terre est menacée en raison du fait que nous sommes entre deux visions contradictoires sur l'être humain qui ne correspondent pas à sa mission. Les anges voyaient en l'être humain un être qui va semer la corruption sur Terre et qui va tuer. Et vous allez me dire, mais ils ont raison. Mais apparemment, Dieu n'était pas d'accord avec eux. Pourquoi? Et ils l'ont dit, et ils ont vu l'être humain par rapport à leur pureté, à leur moralité, à leur moralisme, à leur religiosité cléricale qui se prennent pour... Bon, c'est des anges. Mais quand des êtres humains se prennent pour des anges, comme dirait Pascal, qui fait l'ange, fait la bête. Et donc la bête se trouvait déjà parmi les anges. Le diable était où? Et donc la vision angélique, pure, spiritualiste et pas spirituelle, moraliste, moralisatrice de l'être humain, a eu son extrême de l'autre côté, de restreindre l'être humain dans son niveau biologique. Les uns voulaient le restreindre, le regarder, le restreindre dans son niveau céleste, et l'autre voulait le restreindre à son niveau biologique. La vision ou la proposition, le projet de Dieu est cosmique parce qu'il relie les deux. Il faut relier le temporel et le spirituel, et c'est ça l'être humain. Et la guerre se trouve lorsque les deux dimensions sont en opposition et que l'un veut dégager l'autre. Et l'un voulant dégager l'autre se retrouve allié de fait pour détester l'humain. Et ce sont ces deux voies, en fait, contradictoires, qui créent tous les conflits que nous avons dans le monde. Entre des gens qui veulent, qui voient l'être humain comme un être impur, un être mauvais à la base. Et vous y vous lisez tous les auteurs des contrats sociaux, genre John Locke, ou comment dire, Hobbes, ou bien Jean-Jacques Rousseau, on a une vision de l'être humain, on part du principe, et la vision néolibérale et libérale est là-dessus. On part du principe que l'être humain est mauvais en soi, et qu'il faut faire avec ce côté mauvais. Les vices particuliers, dirait Manville, font les richesses et la prospérité des peuples. Donc autant laisser faire ce vice-là. Mais c'est déjà une vision négative de l'être humain. Et l'autre vision qui viendra après, c'est de dire, mais en fait, l'être humain n'est qu'un animal qui n'est là que pour manger et boire et faire d'autres choses. Il n'y a pas de dimension supérieure. Et cela est en contradiction avec les aspirations de l'être humain. Cela nous met en tension. Autre point, et je vais en terminer là-dessus, citons Ibn Khaldoun. La civilisation chez Ibn Khaldoun. Problématique de la civilisation, c'est quoi? C'est que l'être humain n'a pas, ne peut pas tout seul répondre à l'ensemble de ses besoins. On a besoin des autres. Ne serait-ce que parce que quand on est, on est faible. C'est ce soir, on n'a pas papa et maman, on meurt. On meurt de faim. On se fait dévorer par les animaux. Donc on se réunit. Mais il y a deux types de besoins. La civilisation est fondée sur deux piliers. Et ces deux piliers sont aussi doubles. Ibn Khaldoun disait le fait qu'il y a l'umran, déjà il parle du fait qu'il y a l'umran, et il y a l'ijtima' al-insani. Donc la civilisation et la société humaine. Et elle dit à un moment donné qu'il y a la forme de la civilisation et il y a le fond, la matière de la civilisation. La matière de la civilisation, c'est la culture, sa pave, et c'est l'économie. Les besoins psychiques et intérieurs et les besoins extérieur, avec l'interaction avec la nature. Comment trouver les moyens de donner à chacun les possibilités de se nourrir intérieurement et de se nourrir extérieurement pour établir la paix. Et il dit, il continue en disant, par contre, la forme de la civilisation, c'est ce qui va organiser ces deux points. C'est l'éducation et la politique. La politique gérant la gestion économique et la production, et l'éducation gérant le partage des cultures. Lorsque vous voyez le Coran, la critique majeure qu'il fait, deux critiques se font au niveau civilisationnel, au niveau coranique. L'histoire des différents peuples de Noé jusqu'à Moïse, alayhi salatu wassalam, est une critique des sociétés humaines et de leur projet de civilisation qui coupe les liens avec le transcendant. Et il nous décrit l'ensemble des dégradations civilisationnelles qui proviennent du fait qu'on ne croit plus en l'unicité de Dieu. Et cela va avoir des conséquences qui vont s'exprimer dans la tyrannie du peuple de Had, dans l'inégalité ou la hiérarchie sociale chez le peuple de Noé, dans la déviance en termes de rapport homme-femme chez le peuple de Lot, etc., etc. La deuxième phase de la critique qu'il fait, c'est le versant non pas matériel cette fois, mais spirituel, à travers la critique qu'il fait de l'expérience des communautés religieuses. Car ils ont pris la source symbolique qui doit fonder l'intériorité humaine comme un moyen pour vivre mieux dans ce monde et un moyen d'accaparement et de domination. Aujourd'hui, au XXIe siècle, dans une mondialisation qui veut et qui fait que 80% des biens produits dans ce monde sont accaparés par moins de 20% de la population mondiale. Dans une civilisation mondiale qui pense que le divin n'existe pas et que le monde se restreint à ce que nous envoyons et que l'être humain n'est qu'un animal fait pour consommer et adresser, pour acheter. Dans une civilisation qui pense que la nature n'est qu'une chose à exploiter entre les mains de ceux qui sont les plus riches, au même titre qu'il y a l'exploitation des êtres humains, et c'est la même violence, dans une telle civilisation, il est normal que le 11 septembre, que la guerre en Irak, que les émeutes qui ont lieu partout dans le monde, que des vols ont lieu, que toutes les différentes tyrannies que nous voyons dans notre monde aient lieu. Car l'éducation, la culture, la politique et l'économique ont été détournées de leur but, c'est-à-dire d'être des moyens pour l'être humain d'exprimer sa lieutenance, et ont été pris comme moyen de domination et de réduction de l'être humain en esclave, comme le diable le voulait. Et Dieu est le plus savant.